Économie et finances, une chronique de Jean-Louis Chambon sur Canal Académie.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour, heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour une nouvelle chronique économique, le grand emprunt national, une vraie chance ou une nouvelle illusion. En effet, toute action économique intègre inévitablement une dimension psychologique et politique. Le projet de grand emprunt en est une nouvelle illustration. Après avoir maturé médiatiquement pendant quelques mois, il rentre donc dans sa phase active. Le président Sarkozy vient en effet d'installer la commission Juppé-Rocard, composée de 24 membres éminents, venus d'horizons très divers, de l'économie, de la finance, des entreprises, de l'économie sociale et de la vie associative et de l'école. Des compétences indiscutables et indiscutées qu'on en juge par l'énoncé de ces personnalités, les professeurs Édouard Barre, Philippe Dessertine, qui est aussi le directeur général de l'Institut de haute finance, Jean de Kervas-Doué, Christian de Boissieux, l'économiste président du Cercle des économistes, les dirigeants Bettina Laville, Fatvin Lay, Véronique Morali, Nicole Nota, que l'on connaît par ailleurs, Elisabeth Lulin, Claude Mandil, Édouard Philippe et Denis Ranc, Monique Canto-Sperber, qui est donc la directrice de NormalSup, Ulm, Marion Guillou, Laurence Toubiana, l'écrivain Éric Orsena, Alain Grandjean du Monde Associatif et Catherine Sesgarski, haut fonctionnaire. La commission est donc chargée de remettre ses conclusions avant le 1er novembre, identifier les pistes d'investissement stratégique qui, après validation par le gouvernement, feront l'objet d'une loi de finances rectificative début 2010. Comme ses prédécesseurs, ce grand emprunt vise donc manifestement des objectifs politiques, c'est-à-dire le déclenchement d'un nouvel enthousiasme, un sursaut permettant à la société civile de se reprendre en main, de construire son avenir et de marquer son adhésion à cette œuvre au collectif. Aussi peut-on s'interroger sur ce projet. Ce projet serait-il donc une nouvelle illusion ou bien encore une vraie chance que le pays pourrait se donner pour éviter de se faire totalement décrocher du peloton de tête des grands pays développés, alors même que de nombreux clignotants économiques et sociaux ont viré au rouge, la perte de compétitivité de l'entreprise France est devenue criante, le déficit récurrent de nos échanges commerciaux mois après mois, année après année, en est l'illustration. La pire menace étant le coût structurel de notre modèle social qui, additionné aux factures propres à la crise mondiale, a plongé les comptes publics dans des déficits abyssaux et l'endettement à des sommets himalayens. Aussi, la dette publique au sens de Maastricht s'inscrit à 1 400 milliards d'euros au premier trimestre 2009 et elle devrait donc atteindre 77% du PIB cette année, alors que, comme le rappelait récemment le sénateur Philippe Marini, rapporteur général du budget à la Commission des finances du Sénat, ce niveau d'endettement était de 22% seulement en 1981. C'est tout dire. Le pays est donc quasiment surendetté. La question que se pose naturellement l'homme de la rue est de savoir si une nouvelle couche d'endettement est bien susceptible de permettre le redressement et le retour de la croissance tant espérée. Trois éléments de réponse paraissent susceptibles d'éclairer cette problématique. Premièrement, savoir distinguer la mauvaise dette de la bonne. Pour faire simple, la mauvaise dette est celle qui finance structurellement le fonctionnement de l'État, ses charges, le coût, la charge de sa dette et la maladie de l'obèse qu'il a contractée avec le développement de son secteur public, des fonctionnaires en sureffectif, le coût insupportable de son modèle social, des retraites, de la protection sociale, etc. Donc cette dette-là est toxique parce qu'elle ne fait que détruire de la valeur sans en créer. En revanche, le premier critère d'une bonne dette est d'être adossé à des investissements productifs qui font finalement rapporter plus pour le budget de l'État en retour sur l'investissement, en taxes, en impôts, en emplois qu'ils ont coûté en charge de la dette. Mais deux difficultés, l'une opératoire, l'autre intellectuelle, se heurtent à la bonne compréhension de cette logique. L'inculture économique des Français est en réalité, hélas, n'est plus à démontrer. Formatée médiatiquement ou formée dans les universités où l'on oppose la vertu de l'État aux vices des marchés, s'appuyant sur des manuels de sciences économiques et sociales par trop généraux, négatifs et macroéconomiques, les Français privilégient la défiance et additionnent des difficultés pour comprendre cette vision schizophrénique de l'économie qui, tel Janus, propose deux visages pour une même technique, la dette. Aussi, la première urgence, le préalable même, qui devrait accompagner cette action, est celle du renforcement de la pédagogie économique pour faciliter la compréhension des rouages et donc autoriser le plus grand nombre à être éclairé dans ces choix possibles qui sont proposés. Cet enjeu est essentiel car on estime qu'en remettant à niveau de culture économique les Français, le potentiel de croissance ainsi libéré, ainsi que la moindre résistance au changement et une meilleure adhésion à la politique pourrait représenter 3 à 4 points de croissance, ce qui en soi serait déjà la réponse au problème posé. Le second obstacle tient au risque d'une incapacité à rendre étanches les deux composantes de la dette et d'être incapable de distinguer le bon grain de l'ivraie. Alain Juppé souhaite que l'emprunt, lorsqu'il sera levé, ne soit pas mis dans les circuits traditionnels des ministères. C'est tout à fait justifié, d'autant que Éric Woerth, le ministre du Budget, considère que ce souhait est tout à fait louable et qu'il souhaite donner une stricte identification aux dépenses d'avenir. Le pire serait que cette manne soit atomisée et qu'elle soit dévorée par l'appétit de différentes sources par ces temps de grandes disettes en matière budgétaire. Aussi, un suivi rigoureux sur la destination des fonds est une grande première et une vraie promesse, un espoir, mais chaque chose en son temps. Remarquons toutefois que cela signifie que pendant que les gros des bataillons des fonctionnaires se partageront le traitement de la mauvaise dette, quelques petites unités auront à gérer les emplois de l'endettement stratégique et l'avenir. Bref, en second lieu, il faut définir des secteurs prioritaires et stratégiques. Nicolas Sarkozy a fort opportunément renversé la méthodologie d'approche car les choses étaient vraiment mal parties. D'innombrables projets étaient déjà prêts dans les cartons des ministères, aussi hétéroclites que chargés de lobbying, des stades, des prisons, des écoles, le réseau ferré, etc. François Fillon avait déjà tiré la sonnette d'alarme, donc plutôt que de se focaliser sur la technique de l'emprunt sur de type public ou de type emprunt sur les marchés, sur sa durée ou sur son montant, on commence par définir les cibles. C'est un grand changement de logique, porteur de réussite par rapport aux objectifs avancés de cet emprunt. Le saupoudrage serait l'inverse de ce qu'il faut faire. D'ores et déjà, trois défis prioritaires ont été définis et ce sont autant de secteurs à privilégier. Premièrement, l'économie de la connaissance et notamment le financement de l'enseignement supérieur. On comprend donc pourquoi Monique Cantos-Terber, qui vit la rareté des moyens de Normal Sup de la rue d'Ulm, fait partie de cette commission. Deuxièmement, la compétitivité des entreprises et le renforcement de leurs fonds propres. Et enfin, troisièmement, la définition des secteurs industriels stratégiques. Tout bien analysé, donc, ce projet de grand emprunt comporte beaucoup de risques, mais constitue une véritable opportunité pour le pays pour réaliser ce qu'il ne sait pas faire depuis des décennies, c'est-à-dire s'enthousiasmer pour son avenir et faire des choix. Choisir suppose d'être informé et ouvert à un niveau minimum de culture économique, c'est donc en soi un challenge. Pour relever ce défi, il faudra faire des efforts supplémentaires de pédagogie économique. En conclusion, il semble donc que le seul véritable danger réside dans l'utilisation de ce grand emprunt comme une nouvelle façon d'éviter de regarder en face la situation des finances publiques, d'oublier la mauvaise dette et de s'exonérer une nouvelle fois des efforts nécessaires pour réduire à la fois les dépenses et l'endettement public. Réduire l'endettement par tous moyens, par la croissance bien sûr, mais certainement par des efforts fiscaux, une nouvelle fois, hélas. Le grand pari de cet emprunt est donc bien de doper la croissance, mais peut-on s'étonner qu'il ne soit pas conduit concrètement et d'une façon conjointe au niveau de l'Europe ? Sans doute, l'effet de levier aurait-il été meilleur ? Quoi qu'il en soit, gardons en mémoire ce que disait MacArthur des batailles perdues. Elles se résument toujours en deux mots. Trop tard. Il faut capitaliser sur le volontarisme avant de regretter l'Union.